Les pieds sur terre, Sonia Kronlund.
Personne n'ose provoquer l'avenir. Il faudrait être fou pour provoquer l'avenir.
Ibrahima a 36 ans, il est ivoirien. Pour fuir les tensions économiques et politiques de son pays, il a pris le chemin de l'exil. Il a suivi le parcours fléché du rêve et de l'humiliation de ceux qu'on appelle les migrants. Il est passé par la Libye, puis il s'est embarqué dans un canot pneumatique défectueux en direction de l'Italie, avant d'être sauvé du naufrage par l'Aquarius, ce bateau humanitaire qui recueille les réfugiés en détresse dans la Méditerranée. C'est là que notre collaboratrice, Fabienne Lomonier, l'a rencontré. Ibrahima est arrivé ensuite en Italie en février 2017, mais son but, c'était d'aller en France pour connaître celui qu'il appelle son pays colonisateur. À son arrivée à Paris en mai dernier, il retrouve son frère et sa sœur, nés du même père. Mais les retrouvailles passent mal. La famille est éclatée, sa sœur l'héberge un temps, mais Ibrahima ne peut pas rester faute de ressources. Il devient alors un de ces 200 à 400 000 sans-papiers qui vivent en France, travaillent souvent dans l'opacité la plus totale et tentent pourtant d'avoir une voix, une existence, un visage. Ibrahima fait notamment le rabatteur des salons de coiffure de Châteaurouge, comme on l'entendait dans l'épisode précédent de ce journal à deux voix. La deuxième voix justement de ce journal, c'est Sceaux, un adolescent de 16 ans et demi. Pour lui, la situation est un peu meilleure. Comme Ibrahima, il a fait le trajet depuis la Côte d'Ivoire en passant par la Libye puis l'Italie en novembre 2016 avant d'arriver fin mai en France à Paris. Il a ensuite vécu dans la rue pendant quelques mois avant d'être hébergé par une famille parisienne. Puis il a enfin été reconnu comme mineur par l'aide sociale à l'enfance. Il bénéficie du coup des mêmes droits qu'un enfant français en danger. Ce qui veut dire qu'il n'est pas soumis aux règles françaises de séjour des étrangers, en gros qu'il n'est pas expulsable. Sauf que tout ceci est seulement valable tant qu'il est officiellement un enfant. Au jour de ses 18 ans, il devra trouver une solution pour ne pas se retransformer en un sans-papier de base, si je puis dire, et rejoindre Ibrahima dans la clandestinité. Un an et demi, voilà le temps qui lui reste, au cours duquel Fabienne Lomonier va l'accompagner, ainsi qu'Ibrahima, pour raconter ce journal à deux voix, dans les pieds sur terre, sur France Culture, deux visages sur une abstraction, deux histoires singulières parmi tant d'autres.
Un mètre et demi de notre position.
Je vous demande la permission de commencer le sauvetage.
Mon nom c'est Sceaux, j'ai 16 ans et demi, bientôt 17.
Je m'appelle Ibrahima, je vais bientôt avoir 36 ans, je viens du Côte d'Ivoire. Depuis la crise post-électorale, j'étais menacé.
Je voulais sortir d'Abidjan en fait, je ne savais pas où j'allais mais je voulais partir.
Je viens visiter là-bas la France, c'est mon pays colonisateur donc
je portais pas le bon nom pour vivre à Abidjan.
Je suis arrivé en France depuis le 23 mai 2017.
Là, franchement, je ne sais pas trop quoi penser. L'avenir se présente plutôt sans papier.
C'est la guerre qui a fait que les gens sont partis de la Côte d'Ivoire. En fait. C'est la guerre qui a provoqué tout ça. C'est la guerre qui provoque toujours, qui fait toujours que nous, on quitte chez nous pour essayer de traverser l'océan et venir ici.
Mon pays colonisateur, journal à deux voix, épisode 2.
Je m'appelle Ibrahima, je suis de Côte d'Ivoire. Maintenant, ça fait 10 mois que je suis en France. Il paraît que je parle seul la nuit, sans m'en rendre compte. Cette nuit, j'ai encore fait un cauchemar. J'étais dans le campo, c'était la nuit. Ils sont venus, ils étaient bien drogués. Je me suis réveillé au moment où ils allaient me frapper.
Mais le café au comptoir, c'est toujours moins cher.
La semaine dernière, je suis allé au rendez-vous avec l'avocate. J'avais envie d'entendre une bonne nouvelle.
T'as peur ?
En fait, c'était pas une avocate, c'était une spécialiste des droits de l'homme, des étrangers, un truc comme ça. J'ai pas bien compris.
Vous avez quitté la Côte d'Ivoire, pourquoi en fait ? Quelle était votre idée ? En fait, après la crise, il n'y avait plus de solution pour moi là-bas.
Parce vous habitiez où, à Abidjan?
À Abidjan, ouais.
D'accord.
J'avais un petit business, un magasin de téléphone portable.
Ouais.
Qui a été cassé par le nouveau président. Bon, toute la zone des magasins a été détruite par le nouveau président actuel.
Ouais.
Bah, parce qu'à chaque fois, là-bas, il y a le coup d'État, les...
Vous ne voulez plus du tout rentrer en Côte d'Ivoire?
Pas que je ne veux plus, mais je... Bon, en fait, je ne veux plus. Parce que là-bas, il n'y a rien qui fonctionne. On fait croire que ça va, mais c'est faux. Et ça s'empile de jour en jour.
Et vous n'avez pas essayé de demander l'asile ici?
Non. Après tous les renseignements à gauche, à droite, à plusieurs personnes qui ont demandé l'asile. Parce que quand tu demandes l'asile et que tu n'es pas accepté, c'est le même autorisation, obligation de quitter le territoire qu'on te donne.
Oui, je sais. En fait, c'est vrai que l'asile, pour avoir des chances de l'obtenir, il faut démontrer des persécutions personnelles, en fait. C'est-à-dire que le simple fait de dire « il y a des problèmes dans mon pays », ça suffit pas.
Ça suffit pas.
Mais en même temps, à part ça, il n'y a pas aujourd'hui vraiment de voie pour que vous ayez un titre de séjour. Parce que si vous n'êtes pas dans un cas d'asile, il faut avoir un titre de séjour. Et ces titres de séjour, on les donne que pour des raisons précises. Et ces raisons précises, c'est toujours les mêmes. Soit vous avez des liens familiaux en France, c'est-à-dire par exemple marié avec une Française, des enfants français. Hein. Et puis ce qui regarde aussi beaucoup la préfecture, c'est la longévité du séjour sur le territoire. En dessous de 5 ans de séjour, c'est pas
en dessous des 5 ans de présence sur le territoire.
Ouais. Tant qu'on n'a pas au minimum 5 ans, c'est quand même difficile d'obtenir une régularisation. Très difficile.
Ouais.
Et il faut démontrer 8 mois au moins de fiches de paye.
Ah ouais,
ce qui compte, c'est même si elles ne sont pas à votre nom, peu importe pour l'instant, ce qui compte, c'est vraiment.
Les fiches de paye.
Bah ouais. Qu'après, il faut demander aux employeurs de faire une attestation de concordance. C'est-à-dire de remplir une petite feuille où ils disent ah bah oui, j'ai bien embauché un tel sous le nom un tel, mais en fait, il me dit aujourd'hui que c'était pas lui, que c'était une fausse carte, etc. Et oui, je reconnais bien que c'était lui. Mais ça veut dire qu'il faut quand même avoir une relation de confiance avec la personne avec laquelle vous travaillez, parce que tout le monde n'est pas prêt à le faire. Les employeurs n'acceptent pas forcément.
Bon, là, il y a quelqu'un d'autre qui m'a donné son séjour.
Ouais.
Bon, lui m'a fait comprendre qu'il connaît les difficultés, que de lui donner seulement que 300 euros pour pouvoir payer les impôts.
Même si 300 euros de quoi? Une fois, deux fois, quatre fois?
Tous les mois.
C'est pas possible. C'est pas possible. Il ment en plus. Vous avez des salaires de quoi? De 1000 euros par mois, il sera même pas imposable. Je sais que c'est une prise d'otage, hein, je sais. Faut négocier plus bas, quoi.
Tu peux.
Non, mais j'ai bien conscience, hein, mais 300 euros, c'est pas possible, quoi.
Mais là, qu'est-ce que vous me conseillez? De patienter ou...
Là, il n'y a pas trop d'autres solutions, en fait. À part la demande d'asile, il n'y a pas d'autres solutions, en fait.
Là, la route, elle est longue. Elle est encore longue pour moi.
Ouais. Ça, c'est certain.
Ouais. Et dis-moi.
Quoi?
Si je reste pendant 5 ans, est-ce que c'est sûr que la situation va changer?
Je ne sais pas.
Je suis sorti du bureau un peu plus triste qu'avant. Il n'y a pas eu de bonnes nouvelles. Elle a juste confirmé ma situation de sans-papiers. Par contre, j'ai compris que si j'avais le sida ou si j'avais été homosexuel, ma demande d'asile aurait été acceptée direct. Mais mon histoire à moi, ce n'est pas la bonne. Il faudrait arranger un peu le réel et fabriquer un récit béton. Béton, béton. Je ne sais pas si j'en suis capable. L'avocate, elle a confirmé tous les comportements qu'un bon sans-papier doit adopter pour ne pas se faire coincer. Pour pas que je me promène avec mon passeport. Parce que si je me fais contrôler avec, ils peuvent me mettre dans l'avion direct. Pour éviter les contrôles d'identité, toujours marcher sur les trottoirs, traverser au passage piéton. Si je monte dans une voiture, toujours mettre la ceinture de sécurité, ne pas frauder dans le métro, s'habiller à l'occidental, éviter de traîner dans les gares, les places publiques fréquentées, Châtelet, Château Rouge, Château d'Eau, République, Stalingrad. En un mot, il ne faut pas se faire voir.
Il y a des chrétiens par ici.
Dans l'église, il y a plein de noirs en fait. Plein de blacks, c'est une église.
Non, mais en fait, quand je demande s'il y a des chrétiens par. C'est parce que les dimanches en Afrique, tous les dimanches, tous les chrétiens vont à l'église. Mais ici, par contre, les dimanches, tout le monde est à la maison. C'est rare de voir les blancs aller à l'église.
Ah bon, t'en as pas vu?
Non.
Mais il y en a quand même.
C'est rare. Très rare. Il fait froid. D'après vous, il fait un froid de canard.
On va boire un truc chaud, là.
Comme elle a dit, il faut que je trouve quelqu'un qui m'accepte avec mon nom. C'est tout.
Mais tu peux pas, parce que t'as pas de sécurité sociale.
Ouais, là c'est compliqué aussi. Comment on fait pour avoir la sécurité sociale?
Mais il faut avoir des papiers.
Cette histoire des papiers, franchement, ça me saoule. Papier, papier. Un seul bout de papier.
Et là, pour travailler, toi, c'est un titre de séjour ou c'est une nationalité qui te prête? Enfin, qui te prête, qui te loue? Le mec.
C'est un titre de séjour.
Il n'y a pas de photo?
C'est le titre de séjour? Si.
Et les employeurs, ils s'en foutent?
Pas qu'ils s'en foutent. Ils ont du mal à pouvoir nous distinguer. Entre noirs, ils ont un peu du mal à nous distinguer. Parce qu'ils disent, c'est comme nous aussi, on a du mal à distinguer les Chinois et les Japonais. Pour nous, tous se ressemblent. Dans tous les cas, ce genre de personnes-là, comme ils ont le titre de séjour, ils le donnent à 5, 6, 7 personnes pour travailler en même temps.
Mais il a le droit de travailler, d'avoir 5 emplois.
Mais comment ils vont le savoir?
Mais tu peux pas bosser
mais eux, c'est
46 heures par jour.
Mais ici, on connaît, tout le monde connaît la politique des Français. C'est leurs intérêts. Du moment où tu payes les taxes, ils n'ont pas de problème avec toi.
T'es sûr de ça?
Mais c'est ça qui se passe dans ce milieu. C'est clair. Tu peux pas te plaindre quelque part. Tu peux rien dire. C'est de l'esclavage, quoi. Mais d'une autre manière. C'est n'importe quoi. Bon, le monde est fait ainsi.
T'as quoi comme solution?
Rien. Rien comme solution. À part d'être patient. Ou comme tu l'as dit, tomber amoureux. Peut-être que je suis un peu trop bête pour tomber amoureux, tu vois. Mais tu vois, tomber amoureux pour avoir les documents, c'est pas trop mon style. Pas trop.
Peut-être on peut faire une annonce.
Annonce de quoi?
Dans une petite annonce.
Pour dire quoi? Ouais, mec cherche femme pour se marier, comme ça. Attends, tu vois, peut-être que je suis un peu bête. Jeune migrant cherche une femme française pour régulariser sa situation.
Et tomber amoureux.
Non, c'est chaud. J'ai pas d'argent. J'ai pas de situation. J'ai pas de maison. Qu'est-ce que je peux apporter à la femme que je vais vouloir? Parce que chez nous, on nous élève des tests. C'est nous qui s'occupons des femmes. C'est pas les femmes qui s'occupent de nous.
Non, mais faut peut-être changer d'esprit.
Ouais, je suis obligé de changer d'esprit parce que là, c'est l'Europe. Je suis obligé de changer. C'est deux mecs qui se lavent ici.
Deux mecs quoi?
C'est deux mecs qui se lavent. C'est-à-dire l'autre fait un peu et toi tu fais un peu pour que ça puisse se compléter, pour que ça soit propre. Sinon si toi si tu veux tout faire, tu peux pas. C'est comme ça.
Mais on va aller à Aubervilliers si tu veux aussi. Tu vas m'emmener dans les boîtes de nuit africaines.
Si je t'envoie si on va dans les boîtes de nuit africaines, c'est chaud hein. C'est rare, très rare que je traîne dehors à cette heure-là. Très, très rare. Si c'est pas, je suis pas avec toi, je suis pas dehors. À partir de 20h, je suis déjà au lit. Parce que la nuit, tu risques de te faire contrôler. Hein, par la police, faire de mauvaises rencontres. Là, je t'envoie dans une boîte africaine que je suis allé une fois. Tu vas découvrir un peu la musique africaine, l'ambiance africaine. En Europe.
Okay. Here we go. 500 years into the future.
Je m'appelle Dibaya Sou. J'ai 17 ans. Je suis arrivé en France depuis le 23 mai. On est le 22 février. Pour le moment, je suis pris en charge par l'aide sociale à l'enfance jusqu'à mes 18 ans. Mais souvent, je me pose la question, qu'est-ce qui va se passer quand j'aurai mes 18 ans? Je peur qu'on me mette dans la rue. Donc pour moi, c'est de trouver une formation et faire ces formations. Donc c'est ce que j'attends en ce moment. Je suis en train de chercher. Quand j'étais à Abidjan, mon père m'avait mis dans la couture. Donc j'ai pas mal d'expérience dans la couture. Donc je suis en train de me renseigner sur les différentes formations et tout. Faut qu'on me guide, en fait. Je dois bouger pour avoir cette formation et puis pouvoir rester, oui. On va à la bibliothèque. Je vais visiter la bibliothèque où je partais toujours faire les cours. C'est dans le 20e à Couronne. Donc on va aller là aujourd'hui. Et puis...
Et c'est pour les mineurs, les cours de français, c'est pour tout le monde.
Ouais. Pourquoi? Il y a toutes les nationalités, en fait, là-bas. Il y a des Ivoiriens, il y a des Guinéens, il y a des Maliens, il y a des Afghans, Soudanais.
Il y a plusieurs niveaux, alors.
Ouais, il y a plusieurs niveaux. Moi, j'étais dans le niveau le plus... si tu veux, le plus fort, quoi.
Tu veux que je t'explique quelque chose? Un beau soir, foin des bocs et de la limonade. Tu vois, j'ai mis au tableau, ça dira C2. Ça suffit. Bon, je vais vous le lire, vous avez fini votre première lecture?
Oui.
Allez, ça s'appelle, ce poème? Rimbaud, c'est l'auteur, c'est Arthur Rimbaud. Mais le titre du poème?
Roman.
On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Un beau soir, foin des bocs et de la limonade. C'est un des vers les plus célèbres de la langue française, tu sais. Alors, tu as raison de poser la question, hein, ça fait rêver. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Ben vas-y, à ton avis, qu'est-ce que ça peut...
Il veut dire qu'à l'âge de 17 ans, on joue, on blague.
C'est vrai. À l'âge de 17 ans, on joue, on blague, on s'amuse. Quoi? On fait des conneries aussi, bien sûr. Et puis...
On ne fait pas
de choses sérieuses, oui. Et puis en même temps, il y a peut-être encore quelque chose d'autre que ça vous évoque. Quand on a 17 ans, qu'est-ce qu'on a derrière soi et qu'est-ce qu'on a devant soi? On a l'enfance toute proche aussi. Hein. On a la joie, la simplicité de l'enfance. On n'a pas de responsabilité d'adulte. Enfin, évidemment, il y a tout ça qui rentre en ligne de compte.
Aussi.
On veut faire tout. Oui, on n'a pas de limite. C'est vrai. On n'a pas de frein. Tu as tout à fait raison. Voilà, donc c'est un beau lancement. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Évidemment, c'est Rimbaud, hein. C'est un poète qui utilise une langue un peu compliquée, mais ça fait rien, je pense qu'on peut y avoir plaisir quand même ensemble. Hein. Un beau soir, foin des bocs et de la limonade, des cafés tapageurs aux lustres éclatants. On va sous les tilleuls verts de la promenade. Un tilleul, c'est un arbre. Oui. Quelqu'un a déjà vu ça, un tilleul? Non. Je vous montre. D'ailleurs, c'est le vers suivant. Hein. Les tilleuls sentent bon dans les bons soirs de juin.
Le juin, c'est le mois ou c'est le...
C'est le mois, oui. Tu vois, je te dis, c'est mai-juin, hein. C'est selon l'endroit où on est. Tu vois, lui, s'il est à Charleville-Mézières, ça fleurit plus tard qu'à Paris. Tu vois, c'est des petits trucs... Ouais. L'air est parfois si doux qu'on ferme la paupière. Le vent chargé de bruit... La ville n'est pas loin, a des parfums de vigne et des parfums de bière. Donc ce qu'il installe, là, Rimbaud, c'est vraiment tout un climat de sensualité. Bah, soulignez-moi tout ce qui est agréable dans cette strophe.
Il y a
Dans cette partie que vous avez lire.
Oui, dans la strophe 2. Comme j'ai arrêté l'enseignement depuis... le 1er septembre, j'ai arrêté l'enseignement. Et de toute façon, mon projet, ça a toujours été, une fois que je travaillais plus pour l'éducation nationale, de faire quelque chose pour aider les réfugiés, les jeunes qui sont dans ces situations épouvantables. C'est pouvoir leur dire bienvenue en France, bienvenue à Paris, bienvenue parmi nous. Et quand même, la manière de leur dire bienvenue, c'est de leur donner quelque chose.
Enivré.
Oui, devenir sous. Okay. Il n'a pas besoin de boire pour devenir sous. Il est saoulé par la beauté, la nature, sa vie en lui, hein, sa grise. Hein.
Évidemment, je ne sais pas parce que j'ai l'audience demain avec le juge.
Ah, bon, bah écoute, on pensera à toi. Hein. Merci d'avoir prévu ta carrière. Dans le groupe, il y en a qui dorment dans la rue. Là, en ce moment, avec la neige. Il y en a un, là, ce matin, il est arrivé, il dort dans la rue. Il m'a d'ailleurs interpellé assez... Qu'est-ce que vous faites ?
Il te dit ça.
Mais moi, je dors dans la rue. Moi, je dors dans la rue. Il m'a répété ça 3 fois. À chaque fois, il me l'a dit. Mais c'est très compliqué. Très difficile d'entendre ça et très difficile de rien faire quand on entend ça.
Je me sens bien d'avoir 17 ans, surtout avec tous ces trucs que j'ai traversés dans mon voyage et tout ça. Donc j'ai appris plein de choses. J'ai rencontré tellement de personnes différentes d'Abidjan jusqu'à Paris puisque c'est pas un avion que j'ai pris pour venir ici. Dans mon voyage, j'étais toujours le plus jeune parmi les gens. J'étais toujours le plus jeune, le plus petit. J'ai toujours travaillé avec mon esprit de me rapprocher de ceux qui sont plus grands, de ceux qui sont plus... Tu vois, c'est ça. Pour être protégé quand même, tu vois. Parce que quand tu restes seul, isolé, tu vas toujours te rappeler des événements que tu as subis ou que tu as vécu. Mais quand tu te retrouves toujours avec des gens, ça te permet d'oublier ce que tu as traversé, c'est ça.
On va où là ?
Au jardin, tu verras. Au parc ici, après les cours, chaque jeudi et vendredi, les gens viennent ici prendre le déjeuner, tu vois. Alors on passe par là. C'est des femmes bénévoles qui nous donnent des déjeuners.
Ah, il y a du monde.
Ouais, t'as vu.
Oui, bien sûr. Tous les bols et toutes les cuillères, vous les remettez à côté, vous jetez rien. Merci. Et les verres aussi.
Le monde est différent pour moi. Ouais, le monde est différent maintenant puisque moi je viens d'un autre continent pour être ici. Entre l'Afrique et l'Europe, je pense qu'il y a une très grande différence. Donc, les cultures et tout, c'est très différent. Où moi j'ai vécu en Côte d'Ivoire ou en Guinée, les manifestations, c'est un risque. Parce qu'en France, ici, tu peux sortir manifester sans problème. Mais par contre, en Guinée ou en Côte d'Ivoire où moi j'ai vécu, si t'es pas d'accord avec le régime qui est en place, que tu risques... Tu risques la mort, quoi. C'est un risque pour toi. Parce qu'ils tirent à bas réel. Ouais, c'est ta vie qui est en danger, c'est ta vie qui est en jeu, quoi.
Où ça ? Ah, man, tu es perdu là. Tu es venu, hein ? Un grand poste.
Je suis curieux, j'aime faire les recherches. Récemment, j'ai étudié, cherché un peu sur l'histoire de Mandela en Afrique du Sud parce que c'est. C'est quelqu'un qui a marqué l'histoire. J'ai entendu dire qu'il a fait plus de 20, il a fait 27 ans de prison. Et je me suis assis, je me dis, 27 ans de prison, c'est pas 27 jours ou 27 mois. C'est 27 ans de prison, c'est pas le dernier, tu vois. Et j'essaie un peu de savoir sur sa vie, sur son combat. J'essaie un peu de savoir si son histoire. Tu connais un peu l'histoire de l'Afrique, toi?
Maman, je pense à toi, je t'écris d'un 3 étoiles à Cajun. Tu vois, faut pas que tu trembles ici. J'ai un toit et un peu d'argent. On vit là tous ensemble, on survit. On est manque presque de rien. C'est pas l'enfer ni le paradis d'être un Africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville. Je suis Africain à Paris. Oh, un peu en exil, étranger dans votre ville. Je suis Africain à Paris. Sais-tu qu'ils nous ont promis des places, mais c'est par la voie des airs. Elles ne sont pas en première classe. C'est un oiseau nommé Chartier. En attendant que l'oiseau s'envole, des mains noires aux doigts de fée vont tourner autour des casseroles.
Aujourd'hui encore, c'était Les Pieds sur Terre et le journal à deux voix de Sow Ebrahima, reportage de Fabienne Lomonier, réalisé par Cécile Lafont. Merci à la mairie de Paris, à la bibliothèque Couronne, à Alix de l'association Paris Exil Mineur, à Sow Ebrahima. Bien évidemment, c'est Céline Autin, notre stagiaire, Sandrine Chaperon, c'est l'attachée de production des Pieds sur Terre. Vous devez vous abonner à notre podcast si vous voulez nous écouter quand vous voulez ou quand vous le souhaitez. Vous pouvez trouver les Pieds sur Terre sur n'importe quelle appli de téléchargement de podcast, comme leur nom l'indique.